And turning today to the first letter of John, chapter 5, verse 18. 1 John.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 18. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le malin ne le touche point. Et notre sujet ce matin est le suivant. Les caractéristiques inchangées d'un chrétien. Nous en arrivons au dernier « nous savons » de cette épître. Il y a trois répétitions soulignées ici « nous savons » et une exhortation finale qui suit. Il y a beaucoup de « nous savons » dans cette épître de Jean. Dans chaque chapitre de cette épître, « nous savons », « vous savez » ou « savons-nous » sous différentes formes. Et au verset 15, « et si nous savons qu'il nous exauce », c'est un terme favori de l'apôtre Jean. Mais voici les trois derniers à partir du verset 18, alors que nous en arrivons à la fin de cette épître merveilleuse et remarquable. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Et j'aurai plusieurs points ce matin. Et le premier point est le suivant. Les croyants ne pèchent point. Nous connaissons la méthode de l'apôtre Jean. Il ne parle pas de manière absolue. Nous ne devons pas le prendre totalement de manière complètement littérale. Et je vais expliquer cela. Le croyant ne pèche point. Ce n'est pas une déclaration absolue, littérale, et nous allons expliquer cela. Et j'aimerais continuer de verset en verset, en commençant avec ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu, et j'aimerais commencer ici, quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu, engendré de Dieu, se conserve lui-même, né de nouveau et engendré. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, dit Christ, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, la régénération, la vie nouvelle qui est mise dans le cœur du croyant, à moins que ceci n'ait été l'expérience d'une personne. Nous utilisons ce terme « régénération » en deux sens du terme, un terme spécifique et un terme large. Bien sûr, il y a des gens que vous allez entendre parler de cette personne, qu'elle est régénérée ou non régénérée. Ce qu'ils veulent dire en général, c'est que cette personne est convertie ou non. Est-ce que cette personne est venue à Dieu réellement et a eu cette expérience profonde de la transformation de la vie que nous appelons la conversion ? Ce terme « régénération » peut être utilisé de manière large et générale comme un synonyme de conversion. Ce processus de la conversion dans son entièreté, mais de manière plus spécifique dans l'Écriture, ce terme est utilisé pour une partie de la conversion, la partie essentielle, cruciale, la partie initiale, le début de la conversion, si vous voulez. Quand vous pensez à la naissance, vous pensez à la conception, puis il y a le processus où l'enfant est formé dans l'utérus, puis l'enfant est né physiquement. Et de la même manière, vous pourriez voir la conversion. Il doit y avoir une conception, il doit y avoir un début. Et si nous utilisons ce terme « régénération » dans un sens spécifique, c'est là, dès le début, le tout début de la conversion. Dieu met la graine de vie dans l'âme d'une personne et la personne est régénérée. Et à présent, la conversion est inévitable, même si elle ne se passe pas nécessairement immédiatement. Cet acte de régénération initiale est instantané, mais il amène à la vie un processus qui inclut le fait que la personne entend de plus en plus la parole de Dieu, elle est convaincue de son péché et la régénération œuvre de manière à ce que la volonté est enclin à écouter et ce processus continue dans notre vie pour la première fois dans ma vie parce que Dieu œuvre dans mon cœur, j'écoute Peut-être que je combats, je résiste, mais je suis dans une certaine mesure captif parce que ce processus a commencé et je vais être convaincu, persuadé, alors qu'avant j'étais impossible à gagner, intouchable et dur, endurci. Mais je ressens un profond sentiment de mon besoin de Christ et je réalise mon péché, je comprends le chemin du salut et je me donne à lui. Et je pense que tout ceci vient de moi, j'ai changé mon opinion, je suis venu à Christ. Mais non, ceci vient de Dieu, une œuvre de Dieu, il a mis cette graine en moi et il a mis ce processus en œuvre. Pour certaines personnes, le processus est en un instant. Même cette semaine, j'ai lu le témoignage de quelques personnes qui ont postulé pour notre formation biblique. Ils ont été convertis en un instant. Ceci est assez rare. Souvent, il y a un combat à l'intérieur de la personne. Mais Dieu régénère et la personne va, peu de temps après, être née de nouveau dans la repentance et la foi en Christ. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. C'est un acte divin qui nous touche, qui régénère notre âme et qui nous amène à Christ et qui nous scelle, nous amène à lui. Mais comme je l'ai dit, nous pensons que nous avons fait ceci nous-mêmes, nous nous sommes repentis, nous avons exercé la foi, mais peu de temps après, nous comprenons un peu mieux, c'est là la miséricorde de Dieu, c'est là son œuvre entièrement. Mais la prédication est utilisée par Dieu et nous prêchons l'évangile, nous persuadons les pécheurs à venir à Christ, c'est une œuvre de Dieu et cependant d'une manière extraordinaire, Dieu utilise la prédication de sa parole et il œuvre intérieurement, il applique sa parole pour nos cœurs. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, ne pèche point. Ce que l'apôtre Jean veut dire ici, nous comprenons ces choses de la bonne manière, c'est que la personne qui est transformée, qui est née de nouveau, ne peut plus pécher facilement. Nous ne croyons pas que le croyant ne pèche point, parce qu'au début de l'Épître, au chapitre 1, verset 8, il dit « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Ainsi, Jean nous a avertis, il ne parle pas ici de manière littérale, de manière absolue. Mais il veut dire ici que la personne réellement convertie ne peut pas pécher facilement ou de manière habituelle ou à la légère, de manière constante ou volontairement, de manière délibérée ou avec joie parce que c'est une nouvelle personne, il a une nouvelle nature et sa conscience œuvre en lui et très rapidement, il est malheureux à cause de son péché. Il ne peut pas planifier de pécher de manière froide et de faire ceci à la légère. Non, il ne peut plus faire cela. Il ne peut pas pécher sans les conséquences de la honte et de la douleur ou sans être froid spirituellement, sans être rétrograde. Non, ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être une personne qui pêche facilement parce que toute cette partie de sa nouvelle nature aspire à la justice, et il a faim et soif de justice, dit le Seigneur. Et il est facilement convaincu de péché. Une personne peut lui parler, le reprendre, en disant « Tu n'aurais pas dû faire ceci, tu n'aurais pas dû dire ceci. » Et la personne sait que ceci est vrai, et il ne peut pas résister pendant longtemps. Il n'est pas un pécheur qui pêche facilement. Il peut être repris. C'est là ce que l'apôtre Jean veut dire ici. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde, se conserve lui-même. Il se garde lui-même. C'est là un signe d'une personne qui est authentiquement convertie. Il y a un combat contre le péché. Oui, bien sûr, il se conserve lui-même. Ceci n'est pas une déclaration absolue à prendre littéralement. Nous ne nous gardons pas nous-mêmes, mais nous nous confions dans le Seigneur et par son aide, par sa force, nous pouvons nous garder nous-mêmes. C'est là la manière par laquelle l'apôtre Jean utilise ce terme, se garder lui-même. Ceci nous rappelle que le vrai chrétien, il est différent des non-croyants. Et si nous n'avons pas ces choses, nous sommes rétrogrades et nous devons revenir rapidement à la position dans laquelle nous devrions être près du Seigneur. Se garde lui-même, ce terme traduit par se conserve, se garde lui-même, littéralement c'est veille. Il veille sur lui-même, il garde, il se garde lui-même. Le chrétien authentique, il veille, il est conscient de ce qui se passe autour de lui, de son comportement. Il s'examine lui-même. Il ne se lève pas le matin pour commencer sa journée complètement indifférent et insouciant par rapport à la personne qu'il est. Mais il y a là une sentinelle pour se garder lui-même, veillant toujours. Non seulement il veille sur lui-même, ce serait la première chose, mais également il s'examine lui-même consciemment et très souvent. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment est-ce que je me suis comportée avant de venir au Seigneur dans la prière? Qu'est-ce que je dois confesser? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en quoi est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que j'ai omis de faire? Il s'examine lui-même. D'oublier, de mettre de côté l'examination de soi-même, c'est quelque chose de terrible. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et alors vous vous mettez en colère, vous répondez d'une mauvaise manière aux gens, vous êtes méchants et toutes sortes vont de travers parce que vous ne vous êtes pas examiné vous-même. Vous avez arrêté de vous examiner vous-même. Comment est-ce que nous pouvons nous repentir sans une certaine mesure de réflexion par rapport à notre comportement en nous examinant nous-mêmes ? Oh, nous ne pouvons pas toujours nous repentir de manière générale. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Non, vous devez également vous souvenir de ce que c'était que vous avez fait. Et il n'y a pas de honte. Vous ne ressentez pas cette honte en vous. Ceci, ce n'est pas de la repentance. Non, nous avons besoin de nous examiner nous-mêmes. Et troisièmement, nous devons nous repentir chaque jour de la bonne manière pour toutes ces choses que nous avons commises, toutes ces choses que nous n'avons pas faites, que nous aurions dû faire. Et la repentance n'est pas de la repentance, à moins qu'il y ait une promesse de faire mieux. Avec chaque repentance, nous devons promettre à Dieu de faire mieux. C'est là la marche du chrétien. Et ensuite, quatrièmement, nous serons prêts à être repris par la parole de Dieu que nous lisons tous les jours. N'oubliez pas l'une de ces questions que nous posons pour chaque texte et passage que nous lisons. Est-ce qu'il y a ici quelque chose qui me reprend ? Et c'est là ainsi qu'un vrai chrétien lit la parole. Peut-être que quelqu'un qui est simplement un demi-chrétien est simplement intéressé par les événements, la géographie, l'histoire et les détails de la parole de Dieu. Mais le chrétien veut connaître, oui, la signification. Et il est également intéressé par le récit, la géographie, l'histoire, mais il est également intéressé par quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Est-ce qu'il y a un avertissement pour moi? Est-ce que ceci me reprend? Est-ce qu'il y a une promesse pour moi? Est-ce qu'il y a un encouragement pour moi dans ce texte? Qu'est-ce qu'il y a dans cette parole pour moi? Et parmi ceci, est-ce qu'il y a quelque chose qui me reprend? Et si nous cherchons ces choses, alors nous allons les trouver. Et nous obéissons et nous répondons à ceci. Cinquième point. Le chrétien met à mort le péché. Quand la conscience parle, quelque chose que je suis prêt à dire et qui est hostile, qui est méchant, qui n'est pas bon, qui va sortir de ma bouche et la conscience me reprend. C'est le Saint-Esprit, bien sûr, qui me reprend, qui active ma conscience. Et alors, je m'arrête et j'avale mes paroles. Je les mets à mort avant qu'elles ne sortent. Je les mets à mort et si je ne fais pas cela, alors, c'est triste parce que la prochaine fois que la conscience me reprend, je l'ignore également et la fois d'après également. Et alors la conscience ne parlera plus, je suis seul et je pêche librement parce que je n'ai pas mis à mort le péché quand la conscience m'a parlé. Ainsi, le chrétien est conscient de ces choses et il est blessé. Quand il ignore sa conscience, il ne peut pas le faire deux fois de suite, trois fois de suite, parce qu'il est consciencieux et il veut plaire au Seigneur. Et il veut éviter le péché. Le chrétien a des buts également. Sixième point, je commence ma nouvelle journée et je veux mettre à mort mon péché principal, cette tendance. Je veux éviter ceci particulièrement aujourd'hui. Quand est-ce que la dernière fois vous êtes sorti de chez vous avec des buts, des intentions? Parce que ceci nous aide réellement, c'est important pour nous que d'éviter le péché. Un chrétien, ceci est négatif, mais un chrétien est prêt à se lamenter sur son péché, sur sa conduite, et à être dans le chagrin par rapport à son péché, dans le deuil. Il ne vient pas simplement allumer la télévision quand il rentre, non. Il souffre, il pense à ce qu'il a fait, il ressent sa honte et la douleur de l'échec. Le chrétien prend des précautions. Il ne se trouve pas simplement dans un endroit où il ne doit pas être, où il ne regarde pas simplement des choses qui pourraient l'amener au péché. Non, il prend toujours des précautions. Il prie, bien sûr, j'aurais dû dire ceci en tout premier, il prie beaucoup pour l'aide du Dieu Tout-Puissant. Le chrétien est son péché. Si je fais cela, ou si je continue à faire cela, cette chose qui est péché, c'est une offense contre Christ. Et j'apporte encore plus de choses à la croix du calvaire sur ses épaules, lui qui a payé le prix pour moi, et je le blesse encore plus. Et je prive d'autres personnes de leur bonheur. Je dois haïr mon péché et les conséquences de mon péché. Je ne veux plus le commettre. Et jamais, 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 ne donner jamais d'excuses pour le péché. C'est là la réaction d'un être humain qui a chuté. Non, ne donner jamais d'excuses pour le péché. N'enviez jamais le péché. Ne passez pas de temps avec des gens qui vivent à la légère, indifférents, insouciants. Ils ne sont pas de bons amis. N'admirez jamais les pécheurs ou ne les accompagnez jamais. Ne soyez jamais dans leur présence. C'est jamais dans la vie chrétienne. Et finalement, le chrétien prend le combat contre le péché au sérieux. Et il est bon également pour être à l'heure. Et votre temps de méditation personnelle, votre temps de prière, votre temps de lecture de la parole, certaines personnes sont organisées de manière naturelle et font ces choses, mais d'autres le sont moins, ou ils sont peut-être plus romantiques et artistes, et ils n'aiment pas les emplois du temps, ils ne sont pas disciplinés, mais nous devons être fermes avec nous-mêmes parce que c'est important de garder nos engagements. Ceci est très important pour la vie chrétienne et pour nous garder sur le chemin étroit près du Seigneur. Et je mentionne tout ceci parce que c'est là ce que le passage nous dit. Quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu se conserve, se garde lui-même. Et ce dont j'ai parlé, c'est vous garder vous-même, veiller sur vous-même et maintenir cette garde, cette sentinelle près de vous. Ceci est si important, c'est sérieux, c'est vital, c'est essentiel. Et ceci est une marque d'un vrai croyant que de désirer de faire cela. J'aimerais continuer avec le verset. Et le malin ne le touche point. N'est-ce pas remarquable? L'apôtre Jean, à ce moment-là, ne veut pas mentionner le nom de Satan, ce malin. Il ne mérite pas d'être mentionné, il ne mérite pas un nom. Nous ne pouvons pas parler de lui. Bien sûr, l'Écriture lui donne un nom, et différents noms même. Mais ceci est important, la manière par laquelle l'apôtre Jean refuse de le nommer ici. Le malin, ce malin. Si seulement nous avions un concept réel de la nature méchante de Satan, son hostilité contre la vérité, contre les croyants, il est intensément méchant. Ceci, nous ne pouvons pas le décrire. Et il a avec lui une grande troupe de démons, d'anges déchus. Il y a toute une hiérarchie de ces démons. Nous lisons par rapport à ses principautés, ses puissances, des chefs, des gouverneurs. il y a des généraux dans son armée, il y a des lieutenants et il y a des centaines et des centaines de démons qui œuvrent tous ensemble sous la direction de Satan pour constamment essayer de trouver toute faiblesse dans la vie d'un chrétien pour l'exploiter, pour tenter le croyant, pour vous faire tomber dans le péché, pour vous piéger. Bien sûr, nous garder nous-mêmes, veiller, c'est quelque chose de très important. Parce que vous avez des milliers de démons, si je puis dire, qui à chaque instant vous regardent. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être un chrétien indifférent, insouciant, c'est si insensé. Et vous ne réalisez pas que le diable est là et ses stratégies qui est là, qui attend pour essayer de vous piéger. Le malin ne le touche point. Ce terme, traduit par « touche », vient en réalité du verbe « lier ». Certaines personnes le traduisent ainsi. Le malin ne s'attache pas à vous. Mais il peut, dans une certaine mesure, n'oubliez pas que l'apôtre Jean ici, c'est son style, il ne parle pas d'une manière absolue. Il peut s'attacher à vous et vous pouvez devenir rétrograde. La promesse ici, c'est que il ne peut jamais totalement, entièrement accomplir ceci et réussir. Il peut attraper le chrétien qui est insouciant, il peut nous amener dans le péché, il peut nous amener loin dans le péché, si nous sommes confiants en nous-mêmes et orgueilleux, fiers et insouciants. Mais il ne peut pas vous dévorer et vous prendre de manière permanente, définitive. Vous ne perdrez jamais votre salut si vous êtes réellement sauvé. Il ne peut pas vous tuer. Il ne peut pas vous blesser d'une manière terrible qui vous emmènerait totalement hors du chemin. Mais par la puissance de l'Esprit, vous serez racheté. Peut-être vous devrez être discipliné. Peut-être que vous allez endurer une période rétrograde, une période de froideur spirituelle. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va vous ramener à lui. Le malin ne le touche point. Mais il ne va pas du tout vous toucher. Si vous êtes près de Dieu, si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est la promesse de Dieu et le chrétien sera toujours gardé jusqu'à la fin. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, veille sur lui-même, et le malin ne le touche point. Je pourrais dire un peu plus par rapport à ceci. Peut-être nous pourrions lire dans Éphésiens chapitre 6, vous savez où je vais aller, au verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, les méthodes, les stratégies du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ceci sera décrit plus tard dans les versets qui suivent. Prenez toutes les armes de Dieu. Ceux qui, de nos jours, sont des guérisseurs charismatiques. Ils combattent, soi-disant, avec les démons, mais je me demande s'ils n'ont jamais lu ce passage. Avec tant de fierté, ils lèvent leurs mains et ils commandent aux démons de faire ceci ou de faire cela. Mais l'Écriture dit, n'imaginez jamais que vous pouvez être en contact tout près avec les démons, avec le diable. Non, vous résistez au diable avec les armures que Dieu donne. Jean Calvin disait constamment aux gens à cette époque qui essayaient de résister au diable avec leurs mains. Il disait, non, ceci n'est pas possible. Vous devez avoir la puissance de Dieu, vous devez être revêtu de l'armure de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et au verset 14, soyez donc fermes, vos reins saints, de la vérité Et revêtez-vous de sincérité, la vérité dans ce sens-là, la sincérité, revêtue de la cuirasse de la justice. Les 10 commandements, gardez-vous derrière les 10 commandements. Et les fruits de l'esprit dans Galates chapitre 6, ce sont là les critères auxquels nous devons nous attacher par l'aide de Dieu, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix. N'oubliez jamais que vous représentez Christ, que vous êtes son ambassadeur, que vous le représentez, parce que votre chute discrédite l'évangile et le Seigneur. C'est là ce que cela signifie, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix. Soyez toujours prêts à le représenter, toujours conscients de votre appel, de votre mission, de votre position en tant que chrétien. Ne l'abandonnez pas, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, les promesses de Dieu, en regardant à lui, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Réfléchissez comme un chrétien constamment, et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, priant en tout temps. Ceci est au-dessus de toute l'armure de Dieu. C'est simplement une parenthèse. Et nous sommes dans une bataille constante contre l'ennemi de nos âmes. J'en reviens à 1 Jean 5, verset 18, nous devons continuer. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le malin ne le touche point. Et au verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. C'est le deuxième « nous savons ». Je n'ai pas vraiment le temps de développer ceci, mais de manière générale, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le malin. Ce deuxième « nous savons » final, ceci nous rappelle que constamment nous gardons à l'esprit les deux peuples dans la Bible et dans l'histoire. Il y a toujours deux peuples, le peuple de Dieu et les enfants de ce monde, les incroyants. Nous devons gagner les gens, nous essayons de gagner les élus, ceux que Dieu va appeler et régénérer. Nous présentons l'évangile, mais il y a toujours deux peuples dès le début de la Bible. La descendance de la femme et la descendance du serpent. Ces liens qui sont là tout le long de la Bible, vous ne pouvez pas comprendre le Pentateuque si vous ne voyez pas le Pentateuque comme exprimant ces deux liens, ces deux peuples dans tout le Pentateuque, les incroyants et les croyants. Et ils sont loin l'un de l'autre, le monde et l'Église. Et le monde est condamné, perdu, et jamais il ne peut être restauré, il ne peut pas être réformé. Et le monde est orchestré par Satan. Il est contre la vérité, contre le Seigneur. Et les croyants sont ceux qui sont délivrés hors du monde, dans le royaume de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ. Et constamment, les chrétiens tombent dans ce piège. Il y a ceux qui disent « Nous sommes sauvés pour réformer le monde ». Non, ce n'est pas notre appel. L'apôtre Jean dit « Dans ce deuxième « nous savons » qui finit ce chapitre, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Le monde ne peut pas être restauré. Il est trop loin en tant qu'individu, en tant qu'Église. Autant que nous le pouvons, nous faisons ce que nous pouvons pour les gens. Nous exprimons de la compassion, nous essayons d'aider, mais en tant qu'entité politique et monde organisé, le monde est sans espoir et condamné. Et Dieu appelle son peuple hors du monde. Et ceci doit être à notre esprit, clairement. Et ainsi, nous n'aimons pas le monde. Et nous ne partageons pas les divertissements du monde et les manières du monde, parce que le monde est pollué, souillé. Regardez ce texte qui est très intéressant. Le monde entier. Ceci ne parle pas du monde physique, ceci parle des incroyants, du monde incroyant. Le monde entier est plongé. Ce terme est fort. Il est plongé. Il est à genoux devant le diable. Il se donne. Il obéit passivement au diable. Le monde est dans les griffes du malin. Les traductions modernes tendent à traduire par le malin. C'est probablement une traduction meilleure. Ça peut être les deux choses, le mal ou le malin. Ce terme, quand nous le voyons ailleurs en grec dans cette épître, il est traduit par malin. Ici, c'est l'exception. Les traducteurs ont choisi de traduire ce terme par mal. Ils peuvent avoir raison, mais très probablement, c'est plutôt le malin, comme dans les autres textes. Mais ça signifie un peu la même chose. Le monde entier est plongé dans le mal, la calamité, la destruction, Satan, la souillure. Et l'Église est différente. La louange, la musique est différente. C'est pour cela que nous n'acceptons pas la musique contemporaine qui est adoptée du monde et des divertissements du monde. Et les paroles également du monde. Et ces choses, ces rythmes qui pervertissent et qui captivent, ceci vient du monde. Il y a toujours une différence entre le monde et l'Église. Et partout où la musique contemporaine est adoptée dans la louange du Seigneur, petit à petit, en peu de temps, la génération qui monte dans cette Église ne voit plus la différence entre le monde et l'Église. Et ils sont complètement confus. Et ils souffrent terriblement. Et souvent, ils abandonnent la foi. Quelle tragédie! Parce que leurs pasteurs ont été suffisamment insensés pour ignorer l'apôtre Jean et la parole de Dieu inspirée. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le malin, dans le mal, sous le contrôle du malin. Au verset 20, ce dernier « nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence, la régénération pour connaître le véritable, c'est Christ. » Et nous sommes en ce véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce dernier « nous savons », ceci parle de la foi personnelle. Ce premier « nous savons » au verset 18, c'est le signe, la caractéristique du chrétien. Il ne peut pas pécher facilement. Mais il veille sur lui-même, ou il essaie, il aspire à veiller. Le deuxième « nous savons » nous montre que l'Église est différente du monde. Le troisième « nous savons » parle de la foi personnelle, la nécessité de la foi personnelle. Quelle est la différence entre quelqu'un qui suit l'islam ou l'hindouisme et un chrétien? Le chrétien a une foi personnelle. Quelle est la différence entre un catholique et un protestant? Le protestant devrait avoir, souvent ceci n'est pas là malheureusement, cette foi personnelle, cette communion personnelle avec Christ, avec Dieu. C'est là ce que c'est que le christianisme. Quelle est la différence entre un chrétien de nom et un vrai chrétien? Le chrétien authentique a une foi personnelle. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous le savons. Nous en sommes certains. Nous avons cette assurance et il nous a donné l'intelligence, la compréhension, parce qu'il y a eu ce moment où toute notre compréhension a changé. Nous avons soudainement réalisé, compris la foi chrétienne et nous avons tout vu sous de nouveaux yeux. Tous nos goûts, tous nos désirs ont changé pour que nous puissions connaître d'une manière toute particulière celui qui est véritable. Et nous sommes en lui, celui qui est véritable. Nous le connaissons, il entend nos prières, il y répond constamment. Même en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le troisième, nous savons, parle de la foi personnelle. Et ensuite, il y a l'exhortation finale. Quelle exhortation que celle-ci! Petits enfants, cela nous parle à nous. Combien ceci est bon! C'est l'écriture inspirée. Petits enfants, dit l'apôtre Jean. Et Dieu nous dit ceci, petits enfants. Et c'est là la fin. Méditer sur ceci, c'est explosif. C'est si important. Quelle est l'application de toute l'épître? Gardez-vous des idoles. les idoles de toutes sortes. N'ayez jamais quelque chose qui est plus important pour vous dans votre vie que le Seigneur. N'ayez jamais quoi que ce soit dans lequel vous dépendez plus que du Seigneur. N'ayez jamais quelque chose que vous aimez, que vous chérissez plus que le temps que vous donnez au Seigneur et l'énergie, l'émotion que vous lui donnez. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est là l'épître de Jean